CIBL 101.5 Montréal.
C'est intermittent jusqu'à Wellington. Vers la rive sud, congestion depuis Turcot, parce qu'on a eu un accident tout à l'heure sur la 132.
Bon, mais c'est clair, tu vas être en retard. Ouais,
cool. J'ai de la gym.
Parce que la 132 demeure encore occupée.
Il est 9h.
CIBL 101.5.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez les Aurores Montréal sur CIBL. Nous sommes le jeudi 28 mars et ici Charline Caro, votre animatrice pour cette longue fin de semaine qui arrive. Et aujourd'hui, on reçoit le propriétaire du restaurant à Poutine, La Banquise, mais également nos chroniqueuses avec Amanda Fakihi pour la rhétorique et puis Emma Ducasse-Soupeo pour les figures féministes de Montréal. Alors que vous soyez au travail, sur la route ou bien tranquillement en train de vous réveiller, bienvenue sur les ondes de CIBL. Et dans l'actualité, la ville de Montréal lance l'initiative propriétaire responsable pour lutter contre l'insalubrité des logements. Le projet consiste notamment en l'intensification des inspections préventives et ciblées pour détecter les logements insalubres. Selon la mairesse Valérie Plante, c'est inacceptable que des Montréalais soient pris en otage dans des logements qui nuisent à leur sécurité, à leur santé ou à leur qualité de vie. Et ensuite, pour cette fin de semaine de Pâques, plusieurs chasses aux œufs sont organisées à Montréal. Le zoo Écomuséum organise toute une activité pour les enfants qui pourront partir à la recherche des œufs dans tout le zoo. Et puis des quartiers de Montréal s'y mettent aussi, à Rosemont par exemple, avec une chasse aux cocos au parc Lafond ou à Outremont au parc Beaubien. De notre côté, on continue sur CIBL avec la chronique rhétorique d'Amanda Fakihi. On commence ce matin avec notre chroniqueuse rhétorique Amanda Fakihi pour un petit décryptage de discours politique. Bonjour Amanda.
Bonjour Charline.
Et aujourd'hui, tu décryptes deux moments politiques selon l'angle rhétorique, bien sûr, qui ont marqué l'actualité.
Voilà, alors je vous propose un menu en deux temps. Sautons l'entrée, passons directement au plat de résistance avec les actualités provinciales, notamment le budget Girard. Et puis, on enchaîne avec les hommages rendus à l'ancien Premier ministre, le petit gars de Baie-Comeau, l'honorable Brian Mulroney. Alors, on commence avec la scène provinciale. Bien entendu, on ne peut pas passer sous silence le sixième budget du ministre Girard, qui a été présenté dernièrement le 12 mars. C'est un budget rédigé à l'encre rouge, assez foncé, merci. Un budget qui laisse entrevoir l'ombre de l'austérité. Précisons que c'est un terme tabou. Hein. On ne l'a pas indiqué dans le document, ni son pendant rigueur budgétaire, qui ont été soigneusement évités. Alors avec un déficit record de 11 milliards de dollars, si on veut être précis, 8,8 milliards de dollars avant le versement au Fonds des générations, voilà l'essentiel à retenir. Alors voyons voir la réaction du premier groupe d'opposition, le PLQ. Charline, vous vous souvenez de cette fameuse subvention controversée de 5 à 7 millions que le ministre Girard voulait verser à une certaine équipe de la LNH ?
J'imagine qu'on parle des Kings de LA.
Les Kings de LA ! Alors, le chef de l'opposition officielle, Marc Tanguay, n'a pas hésité à tirer le bouchon un peu plus loin en présentant François Legault comme le king de la dette et des déficits. Ouais. Alors, c'est une expression qui a été initialement accouchée par son collègue porte-parole de l'économie, Frédéric Beauchemin. Alors ici, nous avons un exemple de périphrase. Qu'est-ce que ça mange en hiver, une périphrase ? Alors, c'est une figure de style qui consiste à désigner un lieu, une personne, un objet, par une expression qui le décrit de manière indirecte et imagée. Alors, dans le contexte du king de la dette et des déficits, la périphrase est mobilisée pour désigner François Legault de manière imagée, en se basant sur une caractéristique qui est spécifique et qui est critiquée par l'opposition officielle, à savoir la mauvaise gestion des fonds publics. Alors, si on décrypte un petit peu cette expression, donc le king, ici on fait bien entendu référence au king de LA, on rappelle cette subvention controversée, de la dette et des déficits, eh bien, on fait référence à ce budget déficitaire historique de 11 milliards de dollars.
Et d'un point de vue rhétorique, qu'est-ce que ça traduit ? Quel est son effet ?
Alors, l'objectif, c'est surtout d'influencer l'opinion publique. Alors, on cherche à générer des gains politiques, des gains électoraux. Alors, en associant François Legault à une image de king de la dette et des déficits, l'expression vise à créer, à renforcer une image négative de lui auprès du public. Alors, cette image négative, elle est destinée à influencer l'opinion publique en projetant une image de François Legault comme un gestionnaire irresponsable des finances publiques, ce qui peut conduire à une perte de confiance de la part des électeurs. Et en brandissant cette expression, qui est forte, hein, qui est chargée négativement, pour critiquer François Legault et son gouvernement, Marc Tanguay cherche à mobiliser, à galvaniser l'électorat mécontent de la gestion des finances publiques. Mmh. Et cet électorat mécontent, bah, il serait plus susceptible de soutenir un parti qui exprime ouvertement ses préoccupations et ses critiques envers le gouvernement en place. C'est également une façon de se différencier des autres leaders politiques et des autres partis politiques. Donc en mettant l'accent sur une critique spécifique, ciblée de la gestion budgétaire du gouvernement, Marc Tanguay essaie de positionner son parti politique comme une alternative compétente, comme le parti crédible en matière économique. Hein, précisons-le, au cœur de l'ADN du Parti libéral, c'est l'économie. Et c'est une façon de se distinguer du gouvernement en place. Alors on a parlé des gains politiques, des gains électoraux, mais il y a également un troisième type de gain, ce sont les gains médiatiques. Alors c'est une expression qui est mémorable, hein, ça frappe l'esprit, le king de la dette et des déficits. Eh bien, elle peut augmenter la visibilité médiatique de Marc Tanguay, de son parti politique, le PLQ, et les médias sont plus susceptibles de reprendre, de discuter de cette expression, ce qui peut augmenter la couverture médiatique du chef d'opposition et lui permet d'atteindre un public beaucoup plus large. Et c'est ce qui s'est passé, hein. On voit les commentateurs politiques qui ont repris l'expression. On voyait, par exemple, Don Lajoute ou bien les mordus de politique. Mais ce n'est pas tout. Marc Tanguay semble avoir une affection particulière pour les figures de style. Hein. C'est plus fort que lui. Alors il affirme ceci, je cite, « La CAQ a dépensé comme des marins en cavale et on n'a même pas les services aujourd'hui. »
On passe de King à commandant de bord, c'est pas mal.
Voilà, voilà. C'est très, très imagé. Alors ici, nous avons la figure de style de la comparaison. Hein, on a l'objet comparatif comme, et l'objectif est d'établir un lien de ressemblance entre deux éléments. Alors la phrase compare les dépenses de la CAQ à celle des marins en cavale. Alors encore une fois, on cherche à mettre en avant l'ampleur et l'irresponsabilité des dépenses réalisées par la CAQ en mobilisant une image forte et évocatrice dans l'esprit des gens. Alors l'expression des marins en cavale, qu'est-ce que ça évoque ? Bah, ça évoque l'idée de dépenses excessives, débridées, irresponsables, semblables à celles d'individus qui dépenseraient sans retenue. Mmh. Alors la comparaison, elle est imagée, elle est simple, elle est claire. Elle est efficace et ça rend facile à comprendre pour l'auditoire. Elle permet à Marc Tanguay de communiquer sa critique de manière directe, efficace, sans avoir besoin de développer longuement ses arguments.
Bon, bah, c'est intéressant de voir toutes les intentions derrière un simple mot. Quelles leçons on peut tirer de cette analyse ?
Alors, ces deux figures de style illustrent l'importance de miser sur le pathos. Bon, un autre mot savant grec. Alors, qu'est-ce que le pathos ? Le pathos, c'est faire appel à des arguments pathétiques, des arguments qui visent à susciter la réaction, susciter des émotions auprès de son public. Alors, miser sur le pathos en communication politique, c'est payant, mais insuffisant. Il y a des limites, notamment le risque de simplification excessive, de manipulation, de négligence, de l'argumentation rationnelle. Alors une bonne communication politique efficace, elle doit équilibrer le pathos avec l'éthos, un autre mot savant. Donc l'éthos, c'est quoi ? C'est l'image que l'on projette de soi, c'est la crédibilité, c'est sa réputation. Et le logos, à savoir les arguments logiques. Donc en équilibrant ces trois composants, on parvient à être convaincant, persuasif et, dans ce contexte précis, à être respectueux de la complexité des enjeux politiques.
Merci pour cette analyse au niveau provincial. On passe à la scène fédérale. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ce côté-là ?
Ah, sur la scène fédérale. Alors, vous savez, on a une grande figure politique qui nous a récemment quittés. Alors, je parle évidemment du petit gars de Baie-Comeau, Brian Mulroney, ancien Premier ministre conservateur, le 18e Premier ministre du Canada, décédé à l'âge de 84 ans le 29 février dernier. On se souviendra de Brian Mulroney pour son amour du Québec. On se souviendra de lui pour sa sensibilité à la cause environnementale. Il a adopté la première loi canadienne sur la protection de l'environnement en 1988. On se souviendra de lui comme le premier ministre canadien à avoir négocié de nouvelles relations commerciales avec les États-Unis, avec l'accord de libre-échange Canada-États-Unis et ensuite avec la première version de l'ALENA. Et on se souviendra de lui, surtout, pour son opposition féroce au régime d'apartheid en Afrique du Sud, qui lui a notamment valu d'être nommé compagnon de l'or du Canada en 1998. Bref, c'est un homme qui a profondément marqué l'histoire du Canada. Et qui dit décès d'une figure illustre, dit éloge funèbre. Bon, permettez-moi de mobiliser une grande figure rhétorique, celui qui est considéré comme le père de la rhétorique, Aristote.
Je t'en prie.
Alors, il distinguait trois types de discours. le discours dit délibératif, mm-hmm. qui s'inscrit dans le contexte politique, le discours judiciaire et le discours épidictique ou bien démonstratif. Et l'éloge funèbre s'inscrit dans le registre épidictique.
Et à quoi ça sert ? Quelle est sa particularité à ce registre épidictique ?
Alors, sa fonction, c'est de louer, de blâmer un individu, une institution. Le discours épidictique cherche à vanter les mérites d'un individu. Et dans le cas des discours prononcés en hommage à Brian Mulroney, le discours épidictique est mobilisé pour vanter ses réalisations, ses qualités de leadership, son héritage. C'est en quelque sorte un panégyrique, un discours élogieux. Et les récentes funérailles d'État en hommage à l'ancien Premier ministre ont été l'occasion de célébrer sa carrière, sa vie personnelle, qui a su marquer l'esprit des gens. Donc on a pu voir plusieurs grandes personnalités publiques, des dignitaires, des figures politiques qui ont pris la parole. Il y a notamment sa fille, Carolyn Mulroney, qui a raconté plusieurs anecdotes ayant jalonné la vie de son papa, dont sa jeunesse passée à Baie-Comeau, sa ville natale. Elle décrit son père, et je cite, « un ami sincère et fidèle ». Dans les beaux jours comme dans la tempête. Cette loyauté trouvait aussi écho dans le respect profond qu'il a toujours nourri envers le Québec. Il avait le Canada dans la peau. Sa conception du fédéralisme canadien était plurielle. Le caractère distinct du Québec était pour lui une source d'unité. On a également le chef et président de la direction de Québecor, Pierre-Carl Péladeau, qui a pris la parole et qui révèle ceci. Son investissement politique est à la hauteur du personnage qui veut s'investir dans la communauté et créer de la richesse collective. C'est ce qu'il a fait, en faisant référence à l'honorable Brian Mulroney. Nous avons Jean Charette qui retrace l'histoire politique personnelle de Brian Mulroney. Il déclare ceci. C'est par la politique qu'il tisse des liens, qu'il noue de nouvelles amitiés et qu'il apprend à connaître son pays. Nous avons Pauline Marois, ancienne première ministre, qui retiendra son indignation face au régime d'apartheid en Afrique du Sud. Alors, le discours épidictique vise à créer une image positive de Brian Mulroney, mais surtout à renforcer l'admiration et le respect à son égard, en mettant en avant ses qualités personnelles, ses réalisations politiques, son dévouement envers le Canada et le Québec. Et les témoignages personnels de sa fille, de ses amis, de ses collaborateurs, contribuent à humaniser Brian Mulroney et à montrer l'impact positif qu'il a eu sur la vie de ceux qui l'ont côtoyé. Et ce genre de discours permet de mettre en perspective son importance, son influence dans le paysage politique canadien et de souligner son rôle dans la construction et l'évolution du fédéralisme canadien.
Tu parlais de pathos tout à l'heure. Là, j'imagine qu'on est en plein dedans.
Absolument. Alors, ce discours mobilise efficacement le pathos pour créer une connexion émotionnelle avec le public en suscitant des sentiments d'admiration, de respect et de nostalgie. C'est un discours qui vise à mobiliser le public autour de l'hommage rendu à Brian Mulroney, à célébrer sa vie et son héritage. Le petit gars de Baie-Comeau s'est peut-être éteint, mais son héritage perdurera à travers les générations, laissant une empreinte indélébile, sur l'histoire politique du Canada.
Moi, je savais que tu faisais de l'analyse rhétorique des discours politiques, mais des éloges funèbres, est-ce que c'est au final le même exercice ?
C'est le même exercice, ouais. Absolument.
Il y a le même procédé ?
Il y a le même procédé, et l'objectif est de susciter la réaction du public et de vraiment marquer leur esprit.
Bon, bah, la rhétorique est partout. Merci beaucoup, Amanda, pour toute cette analyse. Si les personnes qui nous écoutent sont intéressées, on peut te suivre sur LinkedIn, où tu proposes d'autres analyses, et puis sur ton site web TNet Stratégie.
C'est bien ça.
Merci beaucoup, et puis à bientôt, Amanda. On continue sur CIBL avec l'entrevue du propriétaire de la banquise.
D'accord. Ça va.
Quand elle mange son bourri, ferra katakou. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Joe, toujours une quiche t'as sur moi. Toi, la seule qui est mon bébé, j'ai tout payé.
On y va.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Big baby, j'suis dans la zone,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Quand elle mange son bourri, ferra katakou. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Joe, toujours une quiche t'as sur moi. Toi, la seule qui est mon bébé, j'ai tout payé.
On y va.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Big baby, j'suis dans la zone,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Oh.
Ah, d'accord, ça va. Ah, d'accord, ça va.
Ma chérie, t'es pressée, faut rester là. Si tu pars, je t'attends pas, je te remplace.
Allez, switch.
Non, je vais pas courir après toi. C'est pas possible, maman m'a pas appris ça.
Jamais.
Toujours comportement.
Allez,
bébé, viens vina. Ah. J'ai assez pour bloquer la plus grosse bleta. L'emportement. Bébé, viens vina. J'ai assez pour bloquer la plus grosse bleta. La cité. Ah. Ici, c'est la cité.
C'est le quartier,
personne pour m'inciter. Point, ouais, tout est maîtrisé. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler.
Mais
mauvais Dieu, toujours une quiche sur moi. T'en as ce qu'est mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Elle aime trop parler. Dans la zone,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Quand elle mange au moulin, fait rakatakou. Quand j'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Dieu, toujours une quiche sur moi. T'en as ce qu'est mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
J'ai vu ça, obligé de lui parler. Mauvais Dieu, toujours une distraction. Moi, t'en as ce qu'est mon bébé, j'ai tout payé. Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Big baby, j'suis dans la zone,
elle aime trop parler.
Elle a kiffé le mood,
elle aime trop parler.
Let's go. Ah, ah, d'accord, d'accord. Ça va, ça va, ça va. Ah, d'accord, d'accord. Ça va, ça va, ça va.
Let's go.
Elle aime trop parler.
Cherchez une activité ludique et rassembleuse? Inscrivez le Bingo Radio de CIBL à votre agenda. Chaque semaine, courez la chance de gagner 3 500 en prix. Invitez vos amis et jouez avec nous tous les dimanches dès 13h. Pour participer, procurez-vous les cartes de jeu du Bingo de CIBL dans un point de vente près de chez vous. Pour trouver des lieux, visitez notre site web au cibl1015.com sous l'onglet Bingo Radio de CIBL. À dimanche prochain et bonne chance!
Salut, mon nom est Camille et je suis une conseillère dynamique et polyvalente.
Si Camille n'a pas mentionné qu'elle est dyslexique, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Mon nom est Jason Dupuis. C'est moi le cowboy urbain sur la route. Je vous invite tous les dimanches de 7 à 9 heures sur les ondes de CIBL au cœur de Montréal. Une émission de musique country 100% francophone et canadienne. Du hillbilly boogie au western, en passant par le bluegrass jusqu'au country pop, c'est le meilleur du country francophone tous les dimanches de 7h à 9h sur les ondes de CIBL.
Les générations se parlent à Trait d'Union. Je suis Louise Curodeau et je vous invite à vous joindre à nous tous les vendredis à 14h sur les ondes de CIBL 101,5.
CIBL 105 Montréal.
Vous écoutiez Franglish, trop parlé, et puis nous, on est de retour ce matin avec Vincent White, directeur marketing chez Ashton, propriétaire du restaurant La Banquise. Bonjour Vincent.
Bonjour,
merci d'être avec nous.
Bien sûr, merci.
Ashton, ce sont des restaurants à poutine dont les copropriétaires ont récemment fait l'acquisition de La Banquise à Montréal. Qu'est-ce que ça représente pour vous de détenir cette institution de la poutine à Montréal?
C'est très, très spécial, en fait, pour Jean-Christophe, Émilie et toute l'équipe de Ashton et de La Banquise. C'est parce qu'en fait, à Québec, Ashton est vraiment synonyme avec la poutine. Mm-hmm. C'est vraiment le restaurant de prédilection pour les gros appétits, mm-hmm. Des Québécois, des Québécoises. Et La Banquise est le même synonyme, je crois, à Montréal et à travers la province. Donc, c'est vraiment une institution de poutine. Mm-hmm. Et puis nous, je crois qu'on a vraiment... dans le milieu de la poutine. C'est vraiment notre plat principal, ce qu'on aime, ce qu'on fait au quotidien. Nous autres, c'est vraiment... oui, on a toutes sortes d'autres items, mais la poutine, c'est notre élément principal. Alors, dans tous les cas, c'est pour ça que cette opportunité-là, quand c'est présenté pour Jean-Christophe et Émilie, c'était tout au naturel de l'explorer. Et puis je pense qu'on est tous très, très fiers de pouvoir maintenant travailler avec l'équipe de la banquise.
Oui, et puis le copropriétaire d'Ashton, Jean-Christophe Lirette, dit que c'est une occasion qu'il ne pouvait pas laisser passer, parce que ça arrive qu'une fois dans sa vie, c'est à ce point-là.
Oui, absolument, parce qu'en fait, avant, la banquise était propriété d'Annie Barsalou et son conjoint Marc. Mais Annie, c'est son père, en fait, M. Barsalou, qui avait fondé la banquise donc dans 1968. Et après, à ses tout débuts, en fait, lui était pompier de l'autre côté de la rue à la caserne de pompiers. Et puis, il a fait donc l'acquisition de l'édifice, de la banquise. Il a ouvert le restaurant. Mm-hmm. Et puis, l'histoire s'est faite de fil en aiguille. Donc, c'est vraiment unique. Puis, Ashton, c'est un petit peu la même chose aussi, parce qu'avant, c'était propriété de M. Ashton Leblanc. Donc, qu'il avait fondé en 1969. Donc, c'est vraisemblablement dans les mêmes années. Donc, pour Jean-Christophe, Émilie et toute l'équipe en place, c'est très, très spécial de pouvoir être impliqué avec deux institutions de la sorte.
Au moment de l'annonce de la mise en vente, la banquise a été convoitée par de très nombreux acheteurs et on le comprend. Comment vous avez convaincu, comment vous vous êtes démarqué pour faire l'acquisition de cette banquise?
Pour reprendre les mots de Annie Barsalou et de Jean-Christophe Émilie, je pense que c'était, ou du moins de Annie, c'était vraiment une opportunité. Je pense qu'elle s'est vue, elle et Marc se sont vus dans Jean-Christophe et Émilie. Jean-Christophe et Émilie, je pense qu'ils ont perçu ça peut-être comme une relève, si on veut. Ils ont beaucoup d'énergie, beaucoup de belles années devant eux, devant toute l'équipe. Puis il y avait ce sentiment-là de dire comme, OK, je pense que c'est vraiment eux. C'est des propriétaires uniques aussi. Donc, pour ces raisons-là, je pense que c'est qu'est-ce qui a fait qu'il y avait un mariage entre les deux. Puis après ça, c'est une question de se connaître. Alors, naturellement, tout ça est fait sous toute réserve, de toute confidentialité, mais il faut apprendre à vraiment se connaître, de dire qu'est-ce que je veux passer les clés à quelqu'un d'autre. Puis, naturellement, durant tout le processus, ça a été très, très, très bien. La relation était excellente et puis c'est ce qui a fait que, dire, c'est vraiment, le mariage a été bien fait. Et puis, nous, quand on a repris, nous autres, on assure une super transition avec l'équipe en place. On est là vraiment, pas pour changer la banquise, on l'a même déjà partagé. C'est tout simplement d'aider l'équipe, d'assurer que le restaurant continue bien opérer, parce que je pense qu'on s'entend tous, on est très, très choyés, il y a des files d'attente à chaque jour, quasiment. Mais ça reste qu'il y a des petites opportunités, comme on offre un super déjeuner, mais ce qui est peu connu. Alors, on commence à en faire part un petit peu sur les réseaux sociaux, un peu plus. Mais tout ça pour dire que, ça a été vraiment une très bonne relation. Ouais. Ils sont vus en Jean-Christophe et Émilie.
Vous parliez d'identité. Vous n'avez pas cherché à la changer, cette identité de la banquise. Pourquoi ne pas chercher à apporter votre touche personnelle, comme c'est le cas lors de nombreux rachats de restaurants?
Je pense que c'est un sujet, c'est une marque qui est très, on est très sensible à la marque actuelle. Elle réussit. Donc, les clients sont au rendez-vous constamment. Il n'y a pas, souvent, on ne veut pas essayer de réparer quelque chose qui fonctionne déjà. Ouais. Alors, je pense que c'est un petit peu la réalité. Il y a au point de vue, nous autres, on est très alignés en premier sur le contexte opérationnel et culinaire. Et puis, côté culinaire, nous autres, on est très, très excités du fait qu'il y a la poutine du mois qui est un petit peu notre moteur d'innovation.
Donc, c'est vous qui l'avez apporté, cette poutine du mois?
Ça existait déjà. D'accord, avant. Okay. Alors, pour mettre en contexte, la banquise avait, lorsqu'ils ont débuté avec, ils ont intégré la poutine au menu quasiment à leur tout début. Il y avait, je pense, peut-être 5 différentes sortes de poutine, je ne me trompe pas. Pas énormément. Oui. Et puis, la poutine du mois a débuté vraiment dans les premières années de la banquise. Et au fur et à mesure que les poutines du mois étaient populaires, ils ont gardé.
Ah oui, OK.
Et puis c'est pour ça que ça a monté maintenant de 35 poutines.
Est-ce qu'on a gardé toutes les poutines du mois?
Pas tous, mais une grande quantité. Et puis, en fait, sous toute réserve, puis là, je vous partage même un petit secret, on a 35 poutines sur le menu, mais il y a encore des poutines du mois qui sont disponibles sur le menu secret. Ça veut dire que si les employés savent que le bouton est sur la caisse,
d'accord.
Donc je peux vous dire qu'il y en a probablement une bonne dizaine, c'est pas un peu plus. Alors, donc, Donc, s'il y a des clients qui disent hey, « je me souviens de celle-ci, il y a quelques années, est-ce que vous l'avez encore? » C'est toujours possible pour nous dire « ben oui, on peut la créer. » Donc, mais tout ça pour dire que c'est quelque chose que nous autres, on continue de supporter puis de mettre de l'avant parce que c'est ce qui a fait de la renommée de la banquise.
Vous détenez maintenant deux institutions de la poutine avec chacune leurs identités. Donc, quelle est la différence entre la poutine de la banquise et celle d'Ashton?
Ça, c'est une question fondamentale. Je dois être très attention, mais non, sans blague. Je trouve que à la banquise, ce qui est la renommée de la banquise, en fait, c'est le nombre de garnitures.
Oui.
C'est tout simplement incroyable.
Je peux pas 35 poutines, il en faut. Ouais.
Ben voilà, exact. Alors, je peux pas penser vraiment à un restaurant, incluant les restaurants Ashton, qui a autant de diversité. Oui. Ashton, par contre, ce qui fait sa renommée, c'est qu'on est vraiment dans ce qui est frais, vrai. Donc, tous les produits sont... on n'a pas de congélateur chez Ashton. Et puis, les produits sont donc... ils ont une qualité très, très élevée. Puis, tout comme la banquise, mais quelque chose que le fromage en grain, je dirais qu'il est vraiment hors pair, le fromage en grain de Ashton. On a des poutines qui ont une belle diversité. Il y a justement, en début février, on a remporté la semaine de la poutine à Québec avec notre poutine roast beef bacon chipotle. Mais ça reste que il y a quelque chose de plus identitaire entre les deux, où est-ce que la banquise, c'est vraiment axé sur les garnitures. Chez Ashton, c'est le fromage en grain qui est frais du jour, entre autres.
Est-ce qu'il pourrait y avoir des influences maintenant que ces deux institutions sont sous le même propriétaire? Est-ce que Ashton pourrait recevoir des influences de l'identité de la banquise, par exemple?
Je crois pour nous autres, nos intentions, c'est tenter de les garder un petit peu distincts, honnêtement. C'est une clientèle de Québec et de Montréal. On ne veut pas nécessairement commencer à mixer, je pense, entre les deux marques, bien qu'il y aurait une opportunité, mais... Je crois que il y a plusieurs autres leviers ou tactiques si on veut pour faire vivre une marque. Alors, pour nous autres, honnêtement, c'est de continuer à faire vivre ce qu'ils font la banquise par rapport à leur succès, donc la poutine du mois, entre autres. Et puis, avec Ashton, c'est continuer de promouvoir nos différentes catégories que nous avons sur le menu. Parce qu'on a énormément, on pousse tout le temps quasiment la poutine, mais on a une super catégorie de burger, super catégorie de sandwich roast beef qui est très identitaire. On commence à maintenant partager nos lait frappé, donc dans une de nos succursales et espérons d'autres par la suite. Donc, ça reste qu'il y a énormément d'autres messages.
D'accord.
Et puis on fera attention avant si jamais on fait des mix du genre.
Très bien. Les restaurants d'Ashton, vous le disiez, sont surtout présents dans la région de Québec. Faire l'acquisition de la banquise, c'est aussi une manière de s'implanter sur le marché montréalais?
Oui, bien sûr. Ben, oui, parce que notre bureau de Ashton, il est bel et bien à Québec. L'équipe de la banquise, par contre, est la même. C'est la même
D'accord,
équipe de gestion,
ouais.
Donc gestion de services, de cuisine, de bureaux et tout. On a quand même 80 personnes qui travaillent à la banquise. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment une belle grande équipe. Et puis, ça accentue un petit peu plus durant l'été.
Mm-hmm.
Ça reste distinct, mais oui, pour l'équipe de Québec, pour Jean-Christophe et Émilie aussi, c'est... Comme ils l'ont partagé, ils ne pouvaient pas passer à côté d'une opportunité de la sorte. Ça nous permet d'être à Montréal, de connaître le marché montréalais. On verra pour la suite.
Et il y a des différences entre ces deux marchés. Vous parliez des habitudes de consommation des habitants de Québec et de ceux de Montréal. Il y a des différences comme ça que vous pouvez voir?
Très bonne question. Je dirais que c'est peut-être un peu difficile à dire.
Oui.
Ça revient, les habitudes de consommation qu'on voit sont souvent liées... Voici ce que je pourrais dire. Au moins pour la banquise, il y a beaucoup de gens du quartier, comme les restaurants Ashton. Parce que, vous voyez, à Ashton, il y en a 22 à Québec.
Mm-hmm. Donc dans la ville de Québec?
Dans la ville de Québec, il y en a 22.
D'accord. Okay.
Oui. Et puis, il y en a un Ashton qui est à Saint-Georges-de-Beauce.
D'accord.
Donc 23 en tout. Donc, naturellement, oui, il y a une clientèle très fervente dans les quartiers parce que c'est où les gens résident. Il y a beaucoup de touristes qui viennent à nos restaurants Ashton à Québec. Mais la banquise, le niveau de tourisme, de clients qui sont touristes est très, très élevé.
D'accord.
Je pourrais dire qu'il y a ce contexte-là. La banquise est ouverte 24 heures. Ashton, nous étions ouverts dans le passé jusqu'à très, très tard, même très tôt le matin, je devrais dire. Puis on avait des restaurants qui étaient ouverts 24 heures. Présentement, pour la chaîne au complet, surtout avec le contexte de pandémie, on a restandardisé avec des heures qui sont courantes avec plusieurs chaînes de fast-food, donc du 10h30 à 10h30 le soir aussi. Certaines succursales ferment plus tard. Mais bref, tout dépendamment, tout dépend du contexte de restaurant. Mais la banquise, qui est vraiment unique, je dirais encore une fois, c'est le contexte touristique qui est très élevé au resto.
On va revenir sur ces touristes qui représentent une grosse part du marché. Votre marché, c'est donc la poutine. Comment on fait pour se démarquer alors qu'aujourd'hui, on peut déguster une poutine absolument partout ou presque?
Je crois que ça vient avec la qualité des produits et puis des ingrédients locaux. Donc, la poutine, c'est quelque chose, on sait, qui vient du Québec. Ça prend du fromage en grains de grande qualité. Ça prend des frites, des pommes de terre qui sont locales, qui sont coupées idéalement frais, coupées du jour. Ça prend sa sauce. Je crois qu'on a tout le temps une sauce souvent qui est un petit peu plus authentique dans ce contexte québécois. Donc, un petit peu salée, mais pas trop foncée. Mm-hmm. Et puis à Québec, en fait, il y a trois différentes sauces que Ashton a. Donc, il y a l'original, il y a la sauce brune puis la sauce piquante. Excuse-moi, sauce brune, sauce piquante et sauce barbecue. Okay. Mais tout ça pour dire que ça prend des ingrédients qui sont frais, mm-hmm. des ingrédients locaux. Ensuite, ça doit être consommé rapidement. C'est quelque chose qui doit être consommé souvent, qui doit être chaud. Donc, c'est ce qui fait un petit peu le contexte d'avoir une bonne mm-hmm. poutine.
Et vous ressentez une forte concurrence dans ce marché-là ou vous avez réussi à vous élever au-dessus du lot?
Ça reste un marché qui est concurrentiel, oui, mm-hmm. absolument. Comme le milieu du fast-food, c'est très concurrentiel. Mm-hmm. Mais on continue de sortir du lot en introduisant des nouveaux produits. Ça vend de deux temps. Donc, avec Ashton, nous avons introduit la poutine roast beef bacon chipotle durant la poutine week, mm-hmm. puis ce qu'on a remporté. Alors, ça, c'était une première poutine depuis de plus de 20 ans qu'on a faite avec Ashton. Alors, on a eu quand même, suite à cette transition-là, avec du rachat de mm-hmm. Ashton, donc il y a déjà... quelques années. C'est du nouveau de pouvoir introduire des nouvelles poutines. Puis avec la banquise, c'est sensiblement la même chose. Il faut continuer d'innover, d'avoir des nouvelles poutines. Alors, la poutine du mois, c'est un petit peu notre vecteur pour mm-hmm. ça.
Au-delà de l'aspect gustatif, quelle est l'importance des autres paramètres comme le lieu, l'ambiance, l'accueil? Quelle importance vous mettez là-dessus?
Très important. C'est ce qui l'autre chose qui fonctionne bien pour la banquise, c'est son lieu. Rue Rachel, coin Saint-Christophe, juste à côté, ou Christophe Colomb plutôt, à un pas du parc La Fontaine. Mm-hmm. C'est assez incroyable. Mm-hmm. Le lieu, hyper important. L'accessibilité, ou l'accessibilité d'un point de vue des heures. Donc, la banquise haut la main, 24 heures sur 24.
On peut pas faire plus.
Exact. Et puis ensuite, mais il y a d'autres contextes aussi qui, pour d'autres restaurants comme les Ashton, on en a plusieurs qui sont près des autoroutes. Alors, la circulation, elle est importante. Ça aide aussi beaucoup de restaurants. On a des Ashton, il y en a qui sont aussi dans des centres commerciaux. Mm-hmm. Donc, encore une fois, centres commerciaux, par contre, des fois, pour des restaurants qui sont en centres commerciaux, quand faut s'attendre que les centres commerciaux soient très occupés. Mm-hmm. Alors, puis il y a des périodes, des fois, c'est incroyable. D'autres périodes, c'est comment les gens sont moins rendez-vous, ils achètent moins, ils consomment moins dans les magasins. Tout ça pour dire le lieu, la circulation est très importante.
Très bien. On le disait, la poutine, c'est un plat qui s'adresse aux Québécois, mais aussi aux touristes, qui représente une grosse part du marché de la banquise. Vous avez une idée en termes de part
C'est une excellente question. Je ne pourrais pas donner un chiffre adéquat. Principalement, c'est surtout une clientèle locale qui vient parce que c'est eux autres qui ont l'accessibilité. Mais ensuite, les touristes, encore une fois, pour la banquise, c'est très élevé. Mais je ne pourrais pas donner un chiffre. Oui, c'est très élevé. Je peux vous dire quand même de touristes.
Est-ce que ce sont deux clientèles différentes? Pareil, c'est la même question pour le marché québécois et montréalais. Qu'il faut trouver un équilibre pour plaire à ces deux parts de ces deux clientèles?
Je crois que c'est... mais les touristes, en général, ils veulent avoir l'expérience locale. Mm-hmm. Ils veulent goûter les ingrédients locaux. Ils veulent vraiment le contexte le plus original pour eux parce que c'est quelque chose qu'ils ne retrouvent pas. Puis, on sait qu'au Québec, c'est nous qui produisons le fromage en grains mm-hmm. De première qualité. Et par défaut, c'est du nouveau pour la majeure partie des touristes. Donc, de le goûter dans un contexte aussi de frites qui sont savoureuses, qui sont croustillantes, qui sont coupées fraîches du jour avec le type de sauce à poutine que nous produisons. Mm-hmm. C'est vraiment de l'originalité à 100% pour ces clients-là. Donc, Je crois que c'est vraiment de garder avec la recette gagnante, les ingrédients locaux, les partenaires locaux, les fournisseurs locaux, parce que ce soit un client qui habite pas très loin du restaurant ou un touriste qui vient carrément d'un autre pays loin du Canada, loin du Québec. Ils veulent essayer l'expérience locale.
Très bien. Est-ce que vous savez quelle est la poutine qui a le plus de succès à la banquise?
À la banquise, la poutine classique sort continuellement parce que c'est littéralement beaucoup justement de touristes et même les locaux qui disent « je veux mon expérience locale, je veux une poutine juste classique
okay. ».
Donc, très populaire, mais naturellement, on en a quand même 34 autres sur le menu.
Oui,
alors, c'est pour dire, la Rachel, la Mati, la Idéfix sont très populaires.
Mm-hmm.
La Idéfix, c'est celle avec la viande fumée, entre autres, et les cornichons et le chou. Donc, elle est sensationnelle. Il y en a vraiment pour tous les goûts, mais la Takis aussi avec la guacamole, très populaire. La T-Rex, alors on en passe, mais rapidement, ce sont les premières poutines qui viennent en tête.
Okay, très bien. Je voulais parler aussi du contexte économique actuel qui est marqué par une forte inflation des aliments. Comment ça vous impacte, vous, en tant que restaurateur?
En effet, cette année, c'est un contexte qui est très délicat. Et puis, on doit quand même se démarquer. Donc, les clients, en effet, le panier moyen, si on veut, des citoyens est moindre. Les gens sont à la recherche de bonnes offres, des offres qui seront alléchantes, intéressantes, parce que tout le monde a des choix à faire financièrement parlant. Il y a deux contextes. Il y a un contexte où est-ce qu'on doit continuer à innover. Puis en innovation, habituellement, quand on innove, les clients sont au rendez-vous, les gens sont prêts à essayer quelque chose de nouveau.
Mm-hmm.
Mais avec des contextes d'items qui sont souvent classiques, qui ont déjà essayé dans le passé, mais là, s'il y a un moment, en effet, pour faire des offres alléchantes ou des prix plus agressifs, c'est le moment ou jamais, parce que les gens disent, si j'ai pas, je dois donner une raison de plus que je connais ce produit-là.
Mm-hmm.
Alors, on le fait avec, je pense, on le voit constamment, on est à la recherche d'offres, de nouvelles offres, de bons prix. Alors, c'est un équilibre entre quelque chose de nouveau, mais également vraiment être agressif avec des prix par moment.
Mm-hmm. Est-ce que pour rester dans vos coûts, vous avez dû être confronté au dilemme entre augmenter les prix ou diminuer les quantités, comme certains autres restaurateurs?
Oui, on n'est pas à l'abri de l'inflation. C'est certain qu'il y a des contextes aussi que nos fournisseurs, les prix augmentent.
Mm-hmm.
Le 1er mai 2023, le salaire minimum a monté de 1,25 $.
Mm-hmm.
On n'est pas à l'abri de ces augmentations-là. Et puis, on a quand même une entreprise, des restaurants à rouler, puis ils doivent rester profitables pour payer aussi les salaires de tous. C'est un équilibre qui est très intéressant. C'est du sport, mais quand on aime le processus comme ça, on travaille en équipe, on travaille bien. C'est ce qui fait qu'on peut quand même très bien se démarquer. Mais c'est certain qu'on n'est pas à l'abri, puis on est sensible au fait qu'on veut continuer à offrir des bons prix aux clients, mais dans des contextes que des fois, on va dire, une certaine protéine est nettement plus dispendieuse parce que le fournisseur à lui-même ou des contextes à gérer, on doit dealer avec. Alors, ça reste, c'est du sport, comme on dit.
Très bien. Merci beaucoup, Vincent, d'être venu nous parler de la banquise de poutine. C'est alléchant dès le matin. Merci beaucoup et puis bonne continuation avec vos restaurants.
Merci, c'est gentil.
On continue sur CIBL et puis on écoute justement Dans la poutine de Omicron.
Facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish dans ton estomac, des sensations magnifiques. 1. Trempe les frites dans l'huile. 2. Fais les cuire, c'est facile. 3. Ajoute la sauce et le fromage squish squish dans ton estomac, des sensations magnifiques. Oh 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 oui, c'est nous ici, Gabo. Oh oui, nos assiettes sont pleines. Fromage, patates, sauce, sont des trucs qui s'aiment. Hamburger aussi pour moi, s'il vous plaît. Ma bouche est tellement pleine que je vous fiche la paix. Y'a du steak ici, gros comme dans les Flintstones. Les bedons sont tellement pleins qu'il y en a qui tombent.
une poutine chaude, c'est la pizza chaude. J'ai pas de vulgaire bouillante, je veux une classique, pas autre chose. Sorti du club, je ne pense qu'à mettre une seule chose dans ma bouche. Une meuf qui me fait déguster de la poutine à la louche. Bien déchiré, c'est ce que j'aime. En l'air pour te réchauffer, bière, poutine, chandail en polaire pour te réchauffer.
Tout le monde de Montréal à Paris
danse la poutine.
Si ça va pas dans ta vie,
danse la poutine.
T'oublieras tous tes soucis.
Danse la poutine, danse la poutine, danse la poutine.
Et tout le monde de Montréal à Paris
danse la poutine.
Comme Fred Astaire sous la pluie,
danse la poutine. Danse la poutine.
TTC au micro, ramène tes plus belles copines. Fais-moi voir ta poutine comme elle découline. J'aime faire trompette avec les meilleurs frites. Aujourd'hui c'est la fête, encore un nouveau hit. C'est pas 5h du matin, la meilleure course au fromage et foutu. On arrive jusqu'au bout, bébé bouge ton bout. Sur la table du fast-food, on débarque à l'eau.
Je suis à présent avec Emma Ducassoupéo pour sa chronique sur les figures féministes de Montréal. Bonjour Emma.
Allô.
Et cette semaine, tu te renouvelles encore une fois puisque tu nous parles aujourd'hui de musicienne.
C'est ça. Après vous avoir parlé de poésie, puis surtout de poétesse québécoise, vous avoir aussi conté les histoires de romancières féministes, aujourd'hui c'est bien de musique dont je vous parle, puis tout particulièrement de musicienne. Okay. Alors, si la musique peut sembler être quelque chose d'assez léger, de l'ordre du divertissement, en réalité, la musique a longtemps été une force puissante dans la façon dont les mouvements sociaux sont perçus, discutés et amplifiés. La musique a souvent été un espace où les voix marginalisées ont pu s'élever et se faire entendre.
Et comment elle a joué justement un rôle important ?
Et bien alors, en fait, dans une société où l'accès à l'éducation, à l'école, n'a pas toujours été égalitaire, où les professions et les champs des possibles aussi étaient limités pour les femmes et les minorités, et où, bien sûr, l'analphabétisation était très courante, la musique a joué un rôle crucial en offrant une voie alternative d'expression et d'émancipation pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance de bénéficier de tout ça. Et puis pour ceux et celles qui n'ont pas eu la chance, en fait, de laisser aussi derrière eux des écrits racontant leur quotidien, leur lutte. Donc, en fait, cette capacité de la musique, enfin, la musique a cette capacité un peu à transcender les barrières de l'éducation formelle, en fait, de l'écrit, et de permettre à des individus de différents horizons de s'exprimer, de créer aussi, puis de créer aussi des liens communautaires, hein, et de revendiquer leur identité de manière significative. En fait, dans de nombreuses communautés marginalisées, défavorisées, la musique, c'est devenu un moyen vital pour les individus de raconter leur histoire, d'exprimer leurs émotions et de partager leur expérience de vie. Et mais d'ailleurs, il y a pas mal de genres musicaux tels que le blues, le hip-hop, le folk qui ont émergé de luttes et de triomphes de communautés marginalisées. Et ça a permis bien évidemment d'offrir une voix aux voix qui sont autrement un peu ignorées par les institutions éducatives, culturelles dominantes.
C'est une idée que l'autrice Patricia Hill Collins développe dans La pensée féministe noire, c'est ça ?
Ouais, c'est un livre qu'on a d'ailleurs eu à lire, toi et moi.
En effet.
C'est exactement ce qu'elle rappelle dans cet ouvrage. Elle rappelle l'importance de la musique comme héritage, mais surtout témoin et transmission de l'expérience des vies des femmes noires, qui en fait autrement ne pouvaient pas laisser le trace, puisqu'elles n'avaient pas accès à l'éducation, pas accès aux institutions. Et donc en fait, c'est au travers de la musique que l'autrice permet d'étudier un petit peu la vie de ces femmes-là. Et en fait, ça montre bien que les traditions musicales transmises de génération en génération servent à préserver l'histoire, les valeurs et les coutumes de communauté. Mmh. Surtout que, voilà, qu'il n'y a pas d'autres traces, en fait. Mmh. Et voilà, il y a pas mal de mouvements de résistance, comme le mouvement des droits civiques, elle le rappelle dans son ouvrage aux États-Unis, ou la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qui ont trouvé dans la musique un moyen de galvaniser les masses, d'inspirer à l'action collective et de défier les structures de pouvoir oppressives.
Donc la musique est politique, féministe, c'est ça que tu essaies de nous démontrer ?
C'est exactement ça. C'est exactement là où je veux en venir. Dans le contexte du féminisme, la musique a servi de plateforme pour l'expression des expériences féminines, la critique des normes sociales oppressives et la célébration de l'autonomie féminine. Puis bien évidemment pas que dans le féminisme, hein, de manière générale dans les luttes, dans les luttes sociales. Puis la musique, ça a souvent été un outil de réappropriation aussi. Des récits féminins, puisque des genres musicaux tels que le rap, le punk, le rock ont été des espaces où les femmes ont pu remettre en question les attentes sociales et culturelles qui leur étaient imposées, en créant des contre-narratifs puissants et provocateurs qui défient surtout les stéréotypes et puis qui réclament aussi leur place légitime sur la scène musicale. Donc, puis surtout, la musique, ça a été un moyen efficace pour sensibiliser, bien évidemment, le public aux questions spécifiques liées au féminisme, telles que le consentement, la santé reproductive, les violences domestiques, pardon. Et il y a pas mal d'artistes très connus comme Nina Simone, Annie DiFranco ou Lauryn Hill qui ont abordé des questions de manière très franche et poignante. Et ça a largement contribué à élargir la conscience collective sur les défis auxquels sont confrontées les femmes à travers le monde.
Voilà pour la musique. Est-ce que tu as un lien à nous faire avec Montréal et puis notamment des figures, des musiciennes montréalaises ?
C'est ça. Grosse introduction, surtout pour vous parler d'exemples québécois. Mais j'aimerais commencer avec Marie-Claire Séguin. C'est une artiste québécoise que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. Mais elle est née en 52 à Verdun, au Québec. Puis c'est une artiste extrêmement polyvalente qui est reconnue pour ses talents de chanteuse, d'autrice, compositrice et d'interprète. Alors dans les années 70, elle devient une figure assez majeure de la scène musicale québécoise. Alors en rejoignant d'abord le groupe Harmonium en tant que chanteuse et musicienne et en contribuant d'ailleurs à l'essor du folk rock au Québec. Puis par la suite, et c'est là où je veux en venir, elle entame une carrière solo qui va être marquée par la sortie de plusieurs albums et dont les chansons sont souvent très engagées, très poétiques aussi, et qui abordent des thèmes très sociaux et politiques tels que l'égalité des sexes, la justice sociale, la protection de l'environnement. Elle va devenir une voix vraiment très influente dans le paysage musical québécois en utilisant sa musique comme un moyen de sensibilisation et de mobilisation sociale. Puis, en plus de sa carrière, elle s'implique activement dans diverses causes sociales humanitaires et elle va participer à beaucoup d'événements et s'engager profondément dans la défense des droits des femmes, des enfants et de l'environnement.
Donc on retrouve tout l'aspect politique de la musique dont tu nous parlais tout à l'heure.
C'est exactement ça. Son engagement à travers ses causes transparaît à travers les compositions musicales. Comme je disais, là, je me répète, mais qui sert vraiment à beaucoup à sensibiliser le public. Et puis en fait, elle a réussi à faire passer des messages extrêmement progressistes dans les années 50, grâce à sa musique. Donc c'est fou. Enfin, je trouve que c'est assez incroyable le pouvoir que la musique peut avoir en tant qu'outil de mobilisation sociale.
Est-ce que tu as des chansons à nous recommander pour illustrer cet engagement ?
Deux que je vous conseille d'écouter ou de réécouter. Alors, il y a Femmes de parole, qui est sortie en 77, qui célèbre le pouvoir des femmes et leur capacité à s'exprimer et à agir pour défendre leurs droits. Et il y a Montréal Zapatitsa, qui est sorti en 97, qui rend hommage aux femmes zapatistes et à leur lutte pour les droits des peuples autochtones et des femmes du Mexique.
C'est un beau projet. Est-ce qu'il y a une autre artiste que tu aimerais nous faire découvrir ?
C'est ça. La deuxième, oui, c'est Pauline Julien, qui, elle, est née en 1928 à Trois-Rivières, au Québec, et décédée en 98 à Montréal. Pareil, c'était une figure très emblématique de la chanson québécoise. Puis c'était aussi une comédienne et une militante sociale. Et voilà, elle a vraiment laissé une marque, une très forte marque sur la culture québécoise, notamment grâce à son engagement pour le droit des femmes, des minorités et des personnes opprimées.
Très bien. Elle est née en 1928, tu dis.
Ça 28.
Oui, 1928. Ça a l'air d'être une vraie précurseuse. C'est quoi son parcours ?
C'est exactement, vraiment. Elle a commencé sa carrière dans les années 50 en tant qu'actrice, mais finalement, c'est dans la chanson qu'elle a véritablement trouvé sa voix. Donc, elle s'est réorientée. Donc, elle a été très vite reconnue pour sa voix puissante et émouvante et ses interprétations passionnées. Et notamment, les interprétations de chansons souvent très engagées socialement et politiquement, qui abordaient pour elle des thèmes très relatifs fait la justice sociale, à l'égalité, à la liberté et à l'amour. Dans les années 60 et 70, Pauline Julien, elle est devenue une figure de proue du mouvement de la chanson engagée au Québec, parce que ça a commencé un petit peu à prendre vraiment un essor. Et elle, elle a vraiment été un peu au centre de ça, parce qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de collaborations avec de nombreux artistes, notamment Félix Leclerc, Gilles Vigneault et Robert Charlebois, contribuant vraiment à façonner vraiment la scène musicale québécoise. Et elle a aussi grandement participé à pas mal d'événements politiques et sociaux, et elle a beaucoup apporté son soutien à des causes progressistes, donc vraiment assez quand même stylé pour quelqu'un né en 1928.
On le rappelle.
C'est ça, ça a vraiment fait d'elle un peu une icône de la lutte pour les droits civils et sociaux au Québec. Puis en plus de sa carrière musicale, il faut aussi noter que Pauline Julien, c'était une activiste infatigable, puisqu'elle s'engageait vraiment ouvertement. Et encore une fois, dans des années, ça s'est créé dans le temps, mais bon, c'est quand même quelqu'un qui est né en 28, faut le rappeler, pour le droit des femmes, des personnes autochtones et des personnes LGBTQ+.
Tant qu'à faire.
Et en plus d'autres groupes marginalisés. Donc voilà.
Ça nous donne envie d'écouter ces chansons. Est-ce que tu aurais quelques titres à nous partager ?
C'est ça. Oui, j'en ai quelques-uns. Donc, Pauline Julien, elle est surtout connue pour interpréter des chansons engagées, mais qui n'ont pas été écrites forcément par elle. Mais que je vous encourage quand même à écouter. Donc, en premier, que je voulais vous recommander, c'est la chanson de Zizanie, qui a été écrite par Félix Leclerc, qui aborde la question de la paix et de la fraternité entre les peuples. Elle appelle à l'unité et à la solidarité dans un monde marqué par les conflits et les divisions. Chanson qui pourra peut-être que vous faire du bien au regard des conflits actuels qui se passent en Ukraine et à Gaza. Puis sur une note un peu plus rigolote, je vous conseille aussi Bozo les culottes.
Ok, rien à voir.
Chanson, ouais, j'essaie de vous proposer les deux, l'ambiance que vous voulez. Ouais. Écrite par Gilles Vigneault, celle-ci, qui dénonce les préjugés et les stéréotypes de genre, encourageant les femmes à revendiquer leur indépendance et leur liberté.
Très bien, moi je retiens Bozo les culottes, j'irai l'écouter. Et puis finalement, une dernière personne que tu aimerais nous présenter.
Une dernière pour la route, pour finir, la dernière musicienne féministe québécoise dont je vais vous parler, qui a aussi bien évidemment marqué la scène militante musicale, c'est Luce Dufaux, une chanteuse québécoise née en 66, et puis qui a débuté sa carrière à 18 ans à Montréal. Elle s'est fait connaître du grand public en participant à l'émission Starmania dans les années 80. Puis son premier album est sorti en 90, puis il y a eu un très gros succès commercial qui a lancé sa carrière. Et donc, elle a vraiment exploré différents genres musicaux dans différents albums qui ont tous été acclamés par la critique, de la pop au jazz, en passant par le folk. Elle a vraiment une voix, elle est vraiment connue pour sa voix assez versatile et son talent d'interprète. Et elle est surtout reconnue pour ses interprétations de chansons à caractère féministe, puisqu'elle a très souvent abordé les thèmes liés à l'émancipation des femmes, la solidarité, la lutte contre les stéréotypes de genre. Voilà. Puis elle aussi, parallèlement, parce qu'on parle vraiment d'artiste hyper engagée, parallèlement à sa carrière musicale, elle était hyper connue et distinguée pour son engagement à travers les causes sociales et environnementales, parce qu'elle a participé à de nombreux événements de bienfaisance, et elle s'est impliquée dans des campagnes de sensibilisation, notamment sur les enjeux de la protection de l'environnement, des droits des femmes et de la lutte contre la pauvreté.
Et quant à ses chansons, qu'est-ce que ça donne ?
Alors, on a « Soir de scotch », qui est sorti en 93 dans l'album « Les vents ont changé », qui aborde les difficultés et les luttes des femmes dans des relations toxiques. Elle évoque les thèmes de l'indépendance, de la résilience et de la nécessité de se libérer des relations oppressives. Et « La fin », cette fois-ci sur l'album « Demain matin, Montréal m'attend », sorti en 95. Et là, cette fois-ci, cette chanson met en lumière plutôt les inégalités économiques et sociales auxquelles sont confrontées de nombreuses femmes. Elle souligne la lutte pour la justice sociale et l'égalité, ainsi que la nécessité de se battre pour un avenir meilleur.
Eh bien, écoute, ça nous fait une playlist très politique en ce matin. On retient toutes ces chansons. Si on peut récapituler, donc « Soir de scotch » et « La fin », ça, c'est de Pauline... Non, Luce Dufaux.
Oui.
On a « Femme de parole » et puis « Montréal Zapatista ». Ça, c'est
Marie-Claire Séguin. Et on a aussi Pauline Julien avec « Bozo les culottes » et la deuxième.
La chanson de Zizani.
C'est ça.
On y arrive. Merci beaucoup, Emma. Je note pour nos chers auditeurs, auditrices, que c'est ta dernière chronique. Voilà, mm-hmm. Tu nous as proposé peut-être 15, 20 chroniques depuis le mois d'octobre. Merci beaucoup à toi. Qu'est-ce que t'as apporté, cette expérience dans l'émission ?
Ben, merci à toi de m'avoir et d'avoir continué à me recevoir ici. Ben, honnêtement, c'était assez, c'était vraiment super chouette de pouvoir me renseigner sur autant de personnes féministes québécoises, montréalaises, puis apprendre autant sur l'histoire du Québec à travers, bien sûr, le biais du militantisme et du féminisme intersectionnel. Mais ça fait un an et demi que je suis ici, puis je trouve qu'il y a plein de... Même dans mon éducation féministe, il y a plein encore de lacunes ou de choses que je dois aller approfondir. Puis autant... Enfin, avoir le luxe et la chance de pouvoir autant parler de ce que je veux et de pouvoir autant aussi mettre en lumière des femmes autochtones, c'était vraiment trop, trop cool. Puis j'ai vraiment appris plein de choses et c'était toujours un format hyper agréable à faire et à dire.
Je te confirme. Merci beaucoup pour ton engagement auprès de CIBL. Et puis on se retrouvera bientôt peut-être pour des chroniques bonus si tu nous les accordes.
Avec plaisir.
Merci beaucoup Emma et puis bonne continuation. On continue sur CIBL avec la clôture de l'émission et le programme de demain.
Ce soir, j'ai l'âme à la tendresse. douce, de retour, douce, douce, ce soir j'ai l'âme.
Et pour nous, l'émission d'aujourd'hui touche déjà à sa fin. Je remercie nos invités et nos chroniqueuses du jour d'être passées à l'émission, ainsi que Mickaël Asselin pour la mise en onde et les choix musicaux. Demain à 8h, c'est la rediffusion des meilleures entrevues de la semaine. Et puis nous, on se retrouve mardi après un lundi férié pour de nouveaux invités, de nouvelles chroniques passionnantes. Alors restez branchés sur CIBL pour suivre ce beau programme. C'était Charline Caro. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à lundi pour une prochaine émission. À mardi, pardon, pour une prochaine émission en direct.
Salut, mon nom est Sylvain. Je suis un préposé au renseignement, organisé et consciencieux.
Si Sylvain n'a pas mentionné qu'il est paralysé, c'est que ça n'a aucune incidence sur son emploi. Ne laissez pas un handicap vous définir. Joignez-vous à la fonction publique. Travaillez pour le Québec, plus qu'une carrière. Un message du gouvernement du Québec.
Intention Inc., c'est la célébration de l'entrepreneuriat sous toutes ses formes. Sophia Zitto et moi-même, François Morin, allons à la rencontre des secrets les mieux gardés du Québec les jeudis de midi à 13h.
CIBL, 40 años en el corazón de la cultura.